Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 6 idées et ou concepts importants qui m'ont aidée ces dernières années pour fêter mes 36 ans de vie. Alors, c'est mon anniversaire le jour où sort ce podcast, et ça fait aussi 6 ans que j'ai lancé ma carrière d'indépendante. Et du coup, j'ai trouvé très amusant l'idée de réfléchir à 6 éléments clés qui m'ont énormément appris sur ce chemin et qui m'ont aidé à m'amener vers la vie que je mène aujourd'hui. Donc ma vie simple et sereine et ma vie d'artiste plurielle et slow et indépendante, etc. Donc j'espère aujourd'hui, en ce moment de mon futur, vous écoutez ce podcast, que certaines de ces idées planteront des graines dans votre imaginaire intérieur en fonction de votre vie, vos besoins et vos aspirations. Alors la première idée, c'est l'importance de différencier la réalité de notre perception et l'importance de comprendre la maîtrise qu'on a sur les perceptions en question. Alors, je vous explique un petit peu plus en détail parce que c'est un peu abstrait dit comme ça. Donc ça c'est une idée qui nous est transmise depuis des millénaires. Je ne sais pas si vous avez appris l'allégorie de la caverne de Platon en cours de philo. En gros, c'est l'idée que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans une sorte de grotte métaphorique avec un feu et que les choses de la réalité créent des ombres sur le mur en passant à travers le feu, vous voyez ce que je veux dire? Et que nous, à travers nos perceptions, nous ne voyons que les ombres reflétées sur les parois de la grotte et nous ne voyons pas les choses réelles qui sont derrière la grotte. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, cette métaphore-là que faisait Platon à l'époque, ce que ça voulait dire, c'est que la réalité qui nous entoure est filtrée par nos perceptions. C'est notre cerveau, en fait, qui voit, qui interprète nos sens, hein, notre vue, notre ouïe, notre toucher, nos souvenirs, etc. Tout est filtré par, en fait, nos perceptions d'être humain. On n'a pas accès à la réalité brute des choses, en fait. Ça n'existe pas. Ce qui fait que... Et c'est ce truc important que j'ai compris en travaillant sur moi ces dernières années, c'est que ce que l'on croit être la réalité, c'est en fait une réalité filtrée par nos perceptions, par notre vision du monde, par nos sens, nos émotions, nos pensées, les histoires qu'on choisit de se raconter par rapport à tout ça. Et donc ce concept-là a été repris par beaucoup d'autres penseurs. Hein. Les stoïciens, déjà à l'époque, parlaient de l'importance de distinguer nos pensées de la réalité. Arthur Schopenhauer parle de cultiver notre qualité de conscience, c'est exactement ça dont il s'agit. C'est-à-dire comprendre et agir sur nos perceptions. Parce qu'à partir du moment où on comprend que la réalité et notre perception sont deux choses différentes, on n'a pas de pouvoir sur la réalité. Par contre, on a du pouvoir sur nos perceptions et c'est là que c'est intéressant. Et ça, c'est un concept dont je vous parle depuis un certain temps maintenant, sous le terme de « imaginaire intérieur ». C'est le mot que j'ai choisi, l'expression que j'ai choisi d'employer pour parler de ce jardin intérieur que représentent toutes nos perceptions du monde, donc tout ce que notre cerveau interprète en fait. Hein. Et cet imaginaire intérieur se constitue de nos expériences, nos souvenirs, nos émotions, nos sensations physiques... Nos pensées, nos jugements, nos croyances, nos valeurs, nos interprétations de tout. En fait, toutes les histoires qu'on se raconte à propos de nous-mêmes. On en a parlé dans l'épisode sur l'identité, en fait. Hein, dans notre imaginaire intérieur, on a une certaine interprétation de qui on est et de qui sont les gens qui nous entourent et de comment est le monde et de comment les choses sont, comment elles devraient être. Toutes ces choses-là, c'est notre imaginaire intérieur. Et en fait, la beauté de notre nature humaine, c'est que nous donnons du sens à toutes ces choses. C'est-à-dire que la réalité, tout ce qu'on perçoit avec nos sens, les expériences qu'on vit, ce que nous disent les gens, ce qu'on lit dans les news, tout ce qui nous arrive en fait, toutes les informations qui nous parviennent, c'est comme des graines qui sont plantées dans notre imaginaire intérieur, dans notre jardin intérieur. Et ensuite, nous, enfin notre cerveau, vient donner du sens à tout ça. Il vient donner du sens à nos émotions aussi, parce que figurez-vous que j'avais suivi un truc de coaching là, d'une américaine qui s'appelle Brooke Castillo, dont le modèle dit que les pensées génèrent les émotions, c'est-à-dire qu'en fonction de l'histoire qu'on se raconte à propos d'une chose, ce qu'on va ressentir comme émotion ne sera pas la même chose. ce qui est vrai, mais en fait l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que parfois les émotions naissent d'abord dans notre corps, c'est-à-dire qu'on va ressentir certaines sensations physiques liées à ces émotions qui, je vous le rappelle, sont des signaux des besoins non remplis, et le cerveau va aussi venir interpréter ces émotions, donner du sens à ces émotions. Donc en fait c'est un phénomène qui agit dans les deux sens. L'histoire qu'on se raconte à propos des choses génère des émotions, mais les émotions qui font partie des sensations qui nous parviennent en fait quand on est dans certaines situations, quand certains besoins ne sont pas remplis, etc., ces émotions sont aussi interprétées comme notre cerveau, par notre cerveau, et deviennent également des pensées. Donc c'est vraiment une sorte d'écosystème en fait, hein, cet imaginaire intérieur, ce jardin intérieur. C'est un écosystème où toutes les différentes graines, les différentes plantes, les différents éléments s'influencent mutuellement pour constituer cette espèce de d'écosystème, d'imaginaire intérieur, de comment on se tissu en fait d'histoires qu'on se raconte, de perception du monde, de perception de nous-mêmes, et qui se nourrissent mutuellement, vous voyez. C'est-à-dire que nos émotions viennent nourrir nos pensées se confirment par la réalité qu'on voit et qu'on fait rentrer dans notre système de pensée, dans notre interprétation des choses. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les faits qui viennent confirmer ce qu'on pense déjà, parce que c'est très rassurant pour le cerveau de maintenir une explication sur le monde qui est constante, et c'est pour ça que le changement c'est si difficile. Et donc voilà, une chose qui m'a été énormément utile ces dernières années, c'est de comprendre ça, de comprendre que la réalité et mon imaginaire intérieur sont deux choses différentes, et que je peux choisir de cultiver cet écosystème. Je ne suis pas obligée de rester à la merci de ma vision du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Et en quoi ça m'a aidée de comprendre tout ça ? Alors déjà, ça m'a énormément aidé de comprendre que mes pensées ne sont pas la même chose que la réalité. Ça veut dire que mes pensées ne sont pas immuables. Elles sont des histoires que je me raconte, des histoires qui m'ont peut-être été transmises par la société, par des adultes à l'époque où j'étais enfant, des figures d'autorité, par des trucs qu'on m'a dit et puis que j'ai planté, que j'ai cru, mais qui sont en fait les pensées de quelqu'un d'autre. Le sens que j'ai donné aux faits. Et ça, c'est hyper crucial de comprendre que les pensées ne sont pas la réalité. Et que même si la réalité elle-même, à moins de se faire des illusions sur la vie, la réalité, on ne va pas la changer. Par contre, le sens qu'on donne à la réalité, ça, on peut jouer dessus. On peut reprendre le pouvoir dessus, en fait. On peut reprendre notre souveraineté intérieure sur ce qu'on cultive activement dans notre imaginaire intérieur. On n'est pas obligé de subir notre imaginaire intérieur. Et c'est ça le plus crucial, en fait, dans ce point que je veux transmettre aujourd'hui. Je ne suis pas obligée de croire mes pensées. Je peux les remettre en question. Je peux changer le sens que je donne aux faits. Je peux décider comment je vois le monde au lieu de continuer mes interprétations par défaut qui sont issues de ma culture, de mon éducation, etc., comme je vous disais. Je peux développer ce qu'Arthur Schopenhauer appelle ma qualité de conscience. Je peux cultiver mon imaginaire intérieur de manière consciente et intentionnelle. Peut-être venir l'aligner davantage avec mes valeurs, avec la vie que j'ai envie de mener, avec la façon dont moi, je choisis de voir le monde. Deuxième chose que ça veut dire, c'est que je ne suis pas mes pensées. Dans le sens, mes pensées ne sont pas mon identité, ne sont pas moi. Mon imaginaire intérieur représente les histoires que je me raconte, le sens que mon cerveau donne aux choses pour prendre des décisions et pour donner du sens à la vie. C'est un mécanisme de survie en fait, hein, de donner du sens aux choses parce que c'est ce qui permet d'anticiper les dangers, etc. Donc c'est hyper précieux. Moi qui suis en plus une autrice de fiction, bien évidemment que notre capacité à raconter des histoires, pour moi, c'est un don extrêmement précieux. Mais ces histoires ne sont pas moi. Et en fait, nous sommes nombreux et nombreuses à s'identifier à nos pensées, à s'identifier à nos opinions, à s'identifier aux histoires qu'on se raconte. Mais c'est pas nous en fait. Moi, je suis la conscience qui observe ces pensées, je suis la conscience qui vit cette vie, qui ressent les sensations du corps, qui vit les émotions au quotidien, je suis aussi mon corps, ça fait partie de qui je suis. Mais je ne suis pas tout ce truc que mon mental a créé pour pouvoir comprendre le monde et vivre dans ce monde en tant qu'être humain conscient. Moi, je suis la conscience qui observe. Et cette prise de conscience-là a été extrêmement utile, et est toujours extrêmement utile aujourd'hui, quand je me laisse emporter par mes pensées, quand je m'identifie trop à elles. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai donné un petit nom à mon syndrome de l'imposteur, que j'appelle Monsieur Impair ? C'est-à-dire que si je crois que je suis mes pensées, si je m'identifie à mes pensées, et ben ça m'incite à vraiment croire que je suis une imposteuse, que je ne suis pas légitime là où je suis. Toutes ces pensées d'imposture qui m'apparaissent de manière régulière. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le diplôme d'artiste, personne va acheter ton art, les gens vont se rendre compte que tu n'es qu'une fraude. Si je m'identifie à ça, je deviens une fraude, voyez ce que je veux dire? Alors que si je prends conscience que je ne suis pas mes pensées, je suis la conscience qui les observe, je peux prendre de la distance avec ces pensées et le fait de donner un nom à ce syndrome de l'imposteur, de l'appeler Monsieur Impair, et j'imagine que c'est Monsieur Impair qui me souffle tout ça à mon oreille et que c'est pas vraiment moi, voyez ce que je veux dire. Ça, c'est une technique pour prendre de la distance avec justement les pensées. Bah, le fait de prendre cette distance, ça me permet de restaurer aussi ma confiance en moi et mon estime de moi. Parce que non, je ne suis pas une fraude. Ça, c'est juste une pensée qui arrive dans ma tête et que je ne suis pas obligée de croire, en fait. Pareil, quand j'ai des pensées liées à la grossophobie internalisée de notre société, hein, des pensées qui disent « Ah là là, t'es petite, t'es grosse, t'es moche, t'es vieille, t'as vu à quoi tu ressembles ». Bah, quand je me parle comme ça, plutôt que d'y croire et du coup de me laisser maltraiter par mes propres pensées, j'imagine que c'est une espèce de petite vieille acariâtre qui me parle comme ça, dans ma tête. Et je lui dis « Oui, oui, on a compris, j'ai entendu, mais j'y crois pas en fait, ça c'est un conditionnement de la société, c'est pas vrai ». Et ça me permet de préserver mon image de moi, ma confiance en moi, mon estime de moi. Donc c'est hyper utile pour ma santé mentale et émotionnelle en fait, d'apprendre à me détacher de certaines pensées qui sont nocives en fait pour moi-même. Mais surtout, tout ce point-là que je vous explique depuis le début de l'émission, ça veut dire que je peux changer mes pensées. Je peux agir sur cet imaginaire intérieur. Je peux choisir de penser autrement. Et c'est ça qui est le plus crucial, parce que c'est ça qui me rend ma souveraineté intérieure. Par exemple, je peux choisir d'arrêter de croire ce que la société grossophobe me dit, comme quoi je suis trop petite, trop grosse, trop vieille, etc. Rien à faire. Je peux choisir de penser autrement à propos de mon corps, à propos de moi en tant que femme, à propos de ma valeur dans la société. Je peux très bien décider de ne plus croire que ma valeur en tant que femme dans la société est liée à mon apparence physique, par exemple. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, mais le fait de prendre conscience de la séparation entre réalité et pensée, c'est la première étape vers le fait de récupérer cette souveraineté intérieure et vers le fait de choisir les graines qu'on plante et qu'on arrose dans notre imaginaire intérieur à partir de maintenant. Après, comme tout le reste, déraciner des pensées qui datent de plusieurs années, qui sont très très profondément enfoncées dans la terre, ça va prendre beaucoup de temps. Planter des nouvelles graines et venir les arroser tous les jours, ça va prendre beaucoup de temps. Mais au moins, ça veut comprendre ce point-là, ça démarre ce processus-là. Et ça fait maintenant des années que je cultive petit à petit mon imaginaire intérieur. Et au quotidien, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose, mais avec 10 ans de recul, puisque j'ai commencé à faire ça depuis même plus de 10 ans, puisque c'est depuis que j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme en 2010, donc ça fait 12 ans, et ben sur l'intervalle de 12 ans, je vois l'impact réel et énorme que ça a eu sur ma vie. J'ai pu réécrire les histoires que je me racontais à propos de ce qui était possible pour moi, par exemple. Ça a été un truc hyper crucial. Comprendre que c'était possible de devenir une artiste indépendante, inviter à nouveau la créativité dans ma vie, plein d'autres choses encore. Par exemple, si j'avais continué à croire que devenir écrivain, ce n'est pas pour les gens comme moi, c'est-à-dire les gens issus de classes populaires, qui ne connaissent personne dans le milieu artistique, littéraire, d'élite littéraire français, si vous voulez. Si j'avais continué à croire que de toute façon les portes me sont fermées parce que je suis pas issue du bon milieu, entre guillemets, je ne serais pas artiste aujourd'hui. Parce que j'aurais continué à croire ces pensées, j'aurais continué à m'identifier à ces pensées, et du coup j'aurais pas fait tous les efforts que j'ai fait pour devenir artiste et autrice aujourd'hui. Quand on croit que quelque chose est impossible, on se donne pas la peine d'essayer, vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais pas appris à explorer mon imaginaire intérieur et à cultiver ce que j'y ai trouvé avec intention, ce podcast que vous êtes en train d'écouter qui existe depuis 2017 n'existerait probablement pas aujourd'hui. Et la première étape de tout ce travail de réécriture, c'est de comprendre ce concept qui est que la réalité et notre perception de la réalité sont deux choses bien distinctes. Et si on ne peut rien changer à la réalité, nous avons du pouvoir sur nos perceptions et nous avons plus de pouvoir que ce qu'on croit sur les histoires qu'on se raconte. Alors récupérons notre souveraineté intérieure sur notre imaginaire intérieur et sur notre mode de pensée et sur notre vision du monde. La deuxième idée, je sens que ce podcast va être long. La deuxième idée, c'est que nous pouvons cultiver notre intelligence émotionnelle. Longtemps, j'ai pensé que mes émotions me contrôlaient. J'étais une enfant colérique, je piquais des crises pas possibles. J'ai encore souvenir que quand mes parents faisaient pas ce que je voulais, j'ouvrais la porte et je hurlais aux voisins que j'étais maltraitée. J'étais très 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 dramatique déjà à l'époque. Et j'ai appris longtemps plus tard que je suis en fait hypersensible, c'est-à-dire que je ressens beaucoup de choses et je les ressens très fort. Et alors, quand ce sont des émotions agréables, c'est merveilleux. Je suis émerveillée par un clair de lune, j'observe les arbres centenaires avec beaucoup de révérence et de déférence, j'aborde la créativité avec un débordement d'enthousiasme, la joie me transporte facilement par des petites choses du quotidien. Mais par contre, quand ce sont des émotions désagréables, j'ai l'impression d'être contrôlée par un être extérieur à moi, qui prend le contrôle de moi. Et quand je suis dans ce genre d'état, alors déjà je réagis de manière qui ne me ressemble pas, quand je suis sous le coup de la colère par exemple. Mais en plus j'ai l'impression que je ne sortirai jamais de cette émotion de colère, de désespoir, de frustration, etc. Et le résultat de cette vision des émotions humaines, c'est que j'ai passé ma vie à avoir peur de mes émotions. J'ai passé ma vie à les voir comme des ennemis à fuir à tout prix. Il fallait que je me détache de mes émotions, que je me comporte de manière rationnelle, que je ne me laisse pas emporter, que je garde la tête froide. Vous connaissez toutes ces expressions. Ce que je ne savais pas, c'est que nos émotions sont au contraire nos alliés. C'est-à-dire que nos émotions nous signalent si nos besoins sont remplis ou pas. Une émotion agréable signale que l'un de nos besoins humains vient d'être comblé. Une émotion désagréable signale au contraire qu'un de nos besoins n'est pas ou mal rempli. Et ça, je vous en parle dans le podcast qui s'appelle « Comprendre nos besoins ». Si vous voulez aller l'écouter ou le réécouter, c'est un bon complément à ce point des 6 leçons. Lorsque j'ai fait mon burn-out il y a 6 ans, je peux vous dire que mes émotions étaient au taquet. C'était l'alerte générale au point que je ne pouvais plus aller travailler du jour au lendemain. J'ai plus pu aller travailler. J'ai fini par quitter mon emploi parce que les émotions que je ressentais étaient tellement désagréables, ça avait un impact sur mon corps, j'arrivais pas à me lever de mon lit, quoi. Et que j'en suis arrivée, grâce à mes émotions, à préférer faire face au chômage que de continuer dans une situation qui m'était devenue insupportable. Et c'est là que j'ai compris que mes émotions ne sont pas des ennemis qui prennent le contrôle de mon corps, ce sont mes alliés qui prennent soin de moi et qui s'assurent que je porte attention à mes besoins. À l'époque de mon burn-out, mes émotions m'ont sauvée d'une situation qui ne me correspondait pas et qui me mettait dans une situation où mes besoins étaient bafoués, vraiment. Et c'était quelque chose que je refusais consciemment de voir parce que j'avais peur de perdre mon travail, parce que j'avais peur de me retrouver au chômage, parce que j'avais peur de ne plus avoir d'argent, parce que j'avais peur de finir à la rue. Je pense que c'est une peur dans notre société actuelle qui est assez commune. Et là, mes émotions ont été mes alliés, m'ont fait comprendre que là, c'était une situation qui n'était plus humainement tenable. Et donc, elles ont quelque part pris le dessus et elles ont fait en sorte que mon corps lâche. Et à l'époque, je les voyais comme une faiblesse. Hein. J'avais beaucoup de culpabilité de ne plus être capable d'aller travailler et d'avoir un stress post-traumatique à chaque fois que je reviens dans le quartier où se situait mon travail. Mais aujourd'hui, je me rends compte que mes émotions, elles m'ont sauvée en fait. Elles m'ont sauvée d'une situation qui me tuait à petit feu et dont je ne voulais consciemment pas m'extraire. Donc ça a été déjà de pouvoir me réconcilier avec mes émotions et de les voir comme des alliés qui nous aident à aller vers ce qui est bon pour nous. Déjà, ça a été quelque chose qui m'a changé la vie, parce que du coup, je n'étais plus dans une situation où je me battais contre quelque chose qui est tout à fait humain. On n'arrêtera jamais de ressentir des émotions en tant qu'être humain. Mais ce que j'ai compris de plus significatif encore, c'est qu'on peut cultiver notre maturité émotionnelle, notre intelligence émotionnelle, notre indépendance émotionnelle, on peut l'appeler de plusieurs façons différentes. En d'autres termes, on peut apprendre à entrer en relation avec nos émotions, à les écouter, à les comprendre et à atteindre un équilibre émotionnel. Lorsque je perdais le contrôle de mes émotions, c'était pas une situation biologique inextricable. Colère égale je pique une crise et je peux rien y faire et la seule manière de régler la situation, c'est de ne plus jamais me mettre en colère. Bien sûr que non. Cette réaction à la colère de piquer une crise, c'était tout simplement un signe d'immaturité émotionnelle. Et quand on développe notre intelligence émotionnelle, on devient capable de ressentir, par exemple, de la colère sans forcément se mettre à piquer une crise. Et je trouve quand même incroyable que nous autres êtres humains, qui sommes des êtres émotionnels par nature, on n'enseigne pas l'intelligence émotionnelle à nos enfants. Qu'on n'apprenne pas ça à l'école, et par extension, qu'on n'apprenne pas ça aux adultes non plus, en fait. Comment ça se fait que c'est une partie aussi importante de notre vie? C'est comme si on n'apprenait jamais au bébé à marcher et qu'on était tous à quatre pattes partout, quoi. On est dans une société qui est plongée dans un état d'immaturité émotionnelle et personne ne nous apprend qu'on peut gagner en maturité émotionnelle, en intelligence émotionnelle, qu'on n'est pas les jouets de nos émotions. On peut apprendre à les accueillir, à les comprendre, à répondre à nos besoins et à gagner en maturité dans la manière dont on répond à nos émotions. C'est tellement basique que je trouve ça hallucinant que ce soit pas plus présent dans notre société, dans notre éducation. Pour aller plus loin dans cette idée, je vous invite à découvrir le travail d'Alfred Adler, qui est un chercheur en psychologie contemporain de Freud et de Jung, et qui était aussi autrichien, viennois, il me semble. Et dans son travail, il parle beaucoup d'indépendance émotionnelle. Et j'ai découvert ces théories à travers le livre qui s'appelle « Le courage de ne pas être aimé », qui a été écrit par un philosophe japonais, que je vous conseille vivement de lire si ça vous intéresse, parce que je trouve que l'approche d'Alfred Adler à propos de l'intelligence émotionnelle est très simple, très abordable et très intéressante à étudier. Ensuite, la troisième idée sur les six que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est de cultiver l'importance de cultiver la présence à l'instant plutôt que d'être sans cesse dans la projection du futur. Donc je vous parlais d'Alfred Adler. C'est une excellente transition puisque c'est de lui que vient une expression qui me paraît très parlante. Oui, il explique, donc dans ce bouquin « Le courage de ne pas être aimé », c'est là que j'ai lu ça, il explique qu'on peut voir le présent soit comme une collection de moments, soit comme une phase préparatoire du futur. Ces derniers mois, j'ai appris à considérer le présent de plus en plus comme une collection de moments et de moins en moins comme une phase préparatoire du futur, et ça me change la vie. À un niveau... En fait, c'est extrêmement difficile à expliquer parce que c'est un changement de perspective qui se vit de l'intérieur. Mais en gros, ce simple changement de perspective me permet de m'ancrer dans le moment, d'être capable de savourer les choses ici et maintenant, même si le moment est imparfait, même si tout se passe pas comme je veux, même si j'ai pas encore atteint mes objectifs. Plutôt que de me perdre dans toutes les considérations mentales, dans tous les projets futurs, ou de me dire « je ne pourrai profiter de ma vie que quand ». En ce moment, c'est « que quand la salle de bain sera finie ». Ça fait quand même plus de 2 mois que je me traîne ces travaux qui devaient durer moins de 3 semaines. Hein. Et ben, le fait de voir le présent comme une collection de moments, ça m'a énormément sauvé l'état mental et émotionnel ces 2 derniers mois, puisque ça m'a aidé à profiter quand même de ce que je suis en train de vivre ici et maintenant, même si la salle de bain n'est pas finie. Même si j'ai pas encore eu cette promotion. Même si j'ai pas encore déménagé dans une belle maison. Même si mon enfant n'est pas encore né. Même si mon enfant n'est pas encore rentré à l'école, n'a pas encore été diplômé. Même si j'ai pas trouvé un travail plus intéressant. Même si je ne suis pas encore en couple. Ou même si je ne suis pas encore mariée. Vous voyez ce que je veux dire? On se place beaucoup de dates futures de se dire notre vie, elle sera mieux quand? Et je pourrais vraiment vivre quand? Et le fait de voir le présent comme une collection de moments, ça permet de se dire, en fait, la vie, c'est maintenant qu'elle se passe. C'est pas dans le futur. Et ce que j'ai compris maintenant que j'arrive au middle age, comme disent les Anglais, à la moitié de ma vie, c'est qu'il y a toujours quelque chose dans le futur qu'on a envie d'accomplir. C'est très très humain d'avoir envie de progresser, d'avoir des projets, d'avoir des envies, de vouloir s'améliorer, d'avoir des objectifs à atteindre, d'avoir des aspirations, c'est très humain. Mais si on n'apprend pas à profiter de la vie et du chemin, ici et maintenant, malgré les imperfections, malgré ce qui n'est pas encore atteint, etc. Si on n'apprend pas à faire ça, même quand tel objectif sera atteint, on ne saura pas mieux en profiter, en fait. Enfin, j'arrive à un âge où j'ai terminé mes études, où je m'étais dit « oui, quand j'aurai fini mes études, que j'aurai plus les devoirs à faire et encore le boulot étudiant le soir, tu verras comme ma vie, elle sera bien mieux. » J'ai passé cette milestone. Quand je suis arrivée en stage, j'étais là, oui, quand j'aurai enfin un CDI et puis que j'aurai un meilleur salaire, et ben je pourrais davantage profiter. J'ai eu le CDD, j'ai eu le CDI, j'ai eu les augmentations de salaire. Voilà. Oui, j'habite que dans 20 mètres carrés. Quand mon mari il arrivera à Paris, qu'on pourra avoir un appartement d'une taille décente, tu verras comme je profiterai mieux. C'est arrivé aussi. Oui, ce boulot-là, ça se passe quand même très très mal. Je préférerais être indépendante et du coup gagner mieux et avoir plus de liberté, etc. Ça se passera mieux quand j'aurai un travail freelance, indépendant, etc. C'est arrivé. Et aujourd'hui, j'arrive à 35-36 ans, donc aujourd'hui, toutes ces étapes-là, je les ai atteintes. J'arrive à un moment de ma vie où il y a plein de choses que j'ai réussi à faire. Et je continue à avoir cet état d'esprit de « oui, ça se passera mieux quand j'aurai une maison avec un jardin, ça se passera mieux quand j'aurai un petit chat, ça se passera mieux quand j'aurai un enfant ». Non, en fait, si j'apprends pas à savourer ici et maintenant, dans le chapitre actuel de ma vie, tout ce qui va se passer, c'est qu'un jour, je vais basculer de « oui, ce sera mieux quand » à « ah mince, c'était mieux avant, j'aurais peut-être dû en profiter ». Donc apprendre à cultiver la présence à l'instant, avoir le présent comme une collection de moments, et à savoir savourer les choses telles qu'elles se passent, telles qu'elles sont, dans un quotidien qui est réel, qui est imparfait, qui n'est pas un fantasme du futur ou une vision parfaite propagée par la publicité et les médias, mais qui est ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, ordinaire, imparfaite, en construction. Savoir profiter de ça maintenant, c'est une compétence qui a une valeur inestimable. Parce que ça aide à cultiver la gratitude, ça aide à apprécier les choses et les gens qui m'entourent aujourd'hui, ça aide à me rendre compte de la chance que j'ai aujourd'hui dans ce chapitre-là de ma vie, ça m'aide à voir les belles choses qui sont dans mon chapitre actuel de la vie, au lieu de vivre dans l'insatisfaction de vouloir toujours plus, ou dans le regret d'un chapitre précédent qui était peut-être mieux que celui-ci. Alors ça ne veut pas dire arrêter de faire des projets ou arrêter de vouloir des choses. Comme je vous disais, je pense que c'est très humain de chercher à grandir, apprendre et évoluer. Et je pense qu'au contraire, c'est un signe de curiosité, c'est un signe de la vie qui s'étend en nous, hein, de vouloir progresser, de vouloir grandir, d'avoir des aspirations, je trouve ça merveilleux. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand j'arrête de voir ma vie actuelle comme transitoire, en attendant d'atteindre ceci ou cela, j'arrive à profiter de ce chapitre-là de ma vie. Ce que je vis ici et maintenant, dans mon quotidien actuel. Je reconnais ce qui est chouette aujourd'hui, sans vivre au bout de ma chaise en permanence, en attendant un futur plein de promesses. Ça, c'est un cadeau extraordinaire que vous pouvez vous faire à vous-même, de cultiver cette qualité de présence à l'instant et cette perception du présent comme une collection de moments. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. La quatrième idée que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est de voir un métier ou un talent comme une progression et pas comme un titre qu'on obtient magiquement une fois qu'on a atteint un certain niveau, un diplôme ou certains accomplissements. C'est-à-dire de voir notre progression dans un métier, dans une compétence, comme quelque chose de justement progressif, et pas comme un 0 ou 1, je suis ou je ne suis pas, je suis légitime ou je ne suis pas légitime. Ce qui m'a permis de me voir comme une artiste, d'agir comme une artiste et ainsi de devenir une artiste, ça a été de changer cet état d'esprit tout simple. Au lieu de le voir comme de manière binaire, donc je suis une artiste et je suis légitime et je mérite le titre, ou bien je ne suis pas une artiste, je ne suis pas légitime, je ne mérite pas le titre, j'ai décidé de le voir comme une progression, comme les niveaux qu'on gagne dans un jeu de rôle à force de combattre les ennemis, résoudre les énigmes, etc. Est-ce qu'un aventurier dans un jeu de rôle devient un guerrier légendaire dès le niveau 1 ? Bah non, et à mon avis, ça enlèverait tout l'intérêt du jeu en question. Je sais pas si vous êtes joueur ou joueuse de jeu de rôle, que ce soit sur table ou en jeu vidéo, etc. Mais ce qui fait le fun du jeu, c'est justement de commencer au niveau 1 et de progresser et de gagner en compétences, etc., etc. Donc on commence par être un aventurier de niveau 1 qui combat des rats avec une épée en bois. Et puis au fur et à mesure qu'on gagne en expérience, on prend des niveaux. On devient aventurier de niveau 4, guerrier de niveau 10. Et un jour, on devient un guerrier légendaire. Mais ça, c'est à la fin du jeu. C'est pas le jour où on décide de devenir guerrier, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est la même chose pour les talents de la vraie vie. Est-ce que Shakespeare était le dramaturge dont on se souvient qui a inventé des expressions anglaises encore utilisées aujourd'hui dès sa naissance ? Mais non ! Imaginez que quand Shakespeare était enfant, Quelqu'un a été son prof d'anglais. Quelqu'un a été le prof d'anglais de Shakespeare. Réfléchissez à ça. Shakespeare aussi, il a été aventurier de niveau 1 à combattre des rats dans des égouts avec une épée en bois. Et le jour où j'ai compris, il y a quelques années, que j'étais une écrivaine de niveau 1, une illustratrice de niveau 1, puis niveau 4, puis niveau 10, c'est là que je me suis autorisée à me comporter en artiste, dès le niveau 1. Mais évidemment, je ne me suis pas comportée en guerrier légendaire quand j'étais aventurier de niveau 1 avec une épée en bois. Mais je me suis quand même comportée en aventurier. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire que je n'étais qu'une amatrice autodidacte qui ne mérite pas le titre d'écrivain et qui ferait mieux de retourner à son CV pour chercher un emploi salarié qui ramènerait de l'argent à la maison, j'ai commencé à me considérer comme étant écrivaine au tout début de ma carrière. Que font les amateurs autodidactes qui feraient mieux de chercher un vrai emploi? Alors, je sais pas pour les autres, mais pour moi, ça veut dire arrêter de perdre mon temps à écrire, ou alors écrire que le dimanche quand j'ai un petit peu de temps, et focaliser mon énergie sur ma, entre guillemets, vraie carrière. Mais que font les écrivains en début de carrière? Ils rejoignent des communautés d'écrivains pour progresser. J'ai rejoint un forum de bêta lecture en 2015. Ils prennent des cours d'écriture créative, ils lisent des livres sur le sujet, ils se forment, ils écrivent régulièrement parce que c'est important. Peut-être qu'ils se lèvent plus tôt le matin pour écrire avant d'aller travailler, par exemple. Et au fur et à mesure, on finit par terminer notre première histoire, corriger notre première histoire, décrocher notre première publication. Je me souviendrai toujours du premier oui que j'ai reçu de la part d'un éditeur pour ma première nouvelle. C'est un email qui m'a été envoyé en avril 2016 et que j'ai découvert pendant que j'étais en vacances au Japon. La nouvelle s'appelle Le Brasseur de Temps et elle est publiée dans une anthologie qui s'appelle Dimension Merveilleux Scientifique 5, je crois que c'était la cinquième, chez Rivière Blanche. Et je me rappelle, c'est comme si j'avais pris un niveau, vous voyez, comme si j'étais devenue d'écrivaine de niveau 3, je suis passée d'écrivaine de niveau 4, avec une nouvelle publiée par un éditeur. Et en fait, vous voyez, c'est le fait de m'être vue comme une écrivaine en début de carrière qui a fait que j'ai fait toutes ces actions pendant toutes ces années pour m'amener à ce niveau-là. Vous restez aventurier de niveau 1, hein, si vous restez avec votre épée en bois à rien faire. Par contre, si vous allez dans les égouts, vous tuez les rats, vous finissez par passer au niveau 2. Et par pouvoir manier une épée en métal, et par pouvoir mettre une armure en cuir, voyez ce que je veux dire. Le fait de voir notre parcours, que ce soit un métier, un projet personnel, une compétence, n'importe quoi que vous faites, donc quand vous vous engagez, quand vous débutez, le fait de le voir comme une progression, où vous commencez au niveau 1, et vous allez progresser à force de faire, d'apprendre, de vous améliorer, et bien quand vous arrivez à voir les choses comme ça, on se comporte différemment quand on voit les choses comme ça. Et en fait, c'est à nous-mêmes de s'autoriser à nous voir comme un aventurier de niveau 1 en premier lieu. Et le reste, les niveaux qu'on va prendre, les compétences qu'on va gagner, ben ça, on va le devenir au cours de notre aventure. Mais encore faut-il s'autoriser à s'engager dans cette aventure. La cinquième idée que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est l'importance de se connaître soi-même, nos propres valeurs et nos propres aspirations. Et ça aussi, c'est une citation qui est, je crois, souvent attribuée à Socrate quand on la ressort, qui est « Connais-toi toi-même ». Alors, il se trouve que la citation originelle qui était inscrite sur le frontispice de je sais plus quoi n'avait pas du tout le sens à l'époque qu'on lui donne aujourd'hui, parce que ça voulait plutôt dire « Connais ta place dans la société hein, », donc c'est pas du tout ça ce que ça veut dire aujourd'hui. Moi, j'ai envie de vous parler de la signification moderne qu'on attribue à cette citation quand on dit « Connais-toi toi-même ». La connaissance de soi, c'est tellement important. Pendant toute notre vie, on nous dit comment penser, quoi valoriser, à quoi aspirer, parce qu'il faut vivre en société hein, et qu'on a besoin de règles et de valeurs communes pour y parvenir, donc c'est tout à fait normal qu'on nous explique le fonctionnement de la société et les règles auxquelles il faut se plier, bien évidemment. On ne pourrait pas vivre en société si on n'avait pas un socle culturel et social commun. Mais une fois que nous sommes des adultes indépendants, nous avons le droit à un petit peu d'autodétermination quand même. Nous avons le droit de choisir nos propres valeurs, nos propres aspirations, comment on choisit de mener notre vie. Mais pour y parvenir, encore faut-il se connaître. Encore faut-il savoir quelles sont nos valeurs, nos inspirations. Encore faut-il savoir comment on veut mener notre vie. Quelle vie nous correspond vraiment à nous profondément. Encore faut-il savoir qui on est sous des années ou des décennies d'injonctions sociales qui nous ont expliqué comment il faudrait être. Qu'est-ce que je valorise réellement? Qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie? Est-ce que ce que je mets en priorité, c'est vraiment ce qui est important pour moi, ou est-ce que c'est ce que la société me dit de prioriser? Par exemple, j'ai fait toute une carrière basée sur des choix pragmatiques, avoir un bon diplôme, trouver un emploi stable, pour être sûr de ne manquer de rien. Les valeurs que je priorisais alors, c'était la sécurité, la stabilité, la réussite sociale par le statut professionnel et par le salaire. Mais c'était pas mes valeurs à moi, au plus profond de moi. C'est ce qu'on m'avait appris à valoriser. Et avec de bonnes intentions, hein, parce que c'était pour me mettre à l'abri du besoin. Mais c'était pas mes valeurs à moi. Et au fil du temps, j'ai dû réapprendre à m'écouter, à entrer en lien avec moi-même et à découvrir qui je suis vraiment moi au fond. Découvrir ce qui me plaît vraiment, ce que je valorise vraiment, ce qui me fait vibrer moi, ce qui compte pour moi, ce qui me rend heureuse moi. Et lorsque j'ai commencé ce travail d'introspection, depuis plus d'une décennie, grâce à la simplicité et au minimalisme qui incite à revenir à l'essentiel, et du coup ça incite à se poser la question « mais qu'est-ce qui est essentiel pour moi ?» Eh bien, j'ai découvert plein de choses que j'avais enfouies parce que c'était pas ce que la société m'avait dit qu'il fallait que je valorise. Mon goût pour la créativité, ma curiosité, mon envie d'indépendance. L'indépendance est une valeur fondamentale pour moi et depuis que je suis toute petite. Quand j'avais 4-5 ans, j'avais juste envie d'avoir 18 ans pour pouvoir être indépendante, avoir mon propre appartement et choisir comment je voulais vivre. C'est quelque chose qui est profondément ancré en moi depuis toujours, l'indépendance. Et à l'inverse, je me suis rendu compte que la belle carrière et le prestige social ne comptaient pas tellement pour moi en réalité. Par contre, gérer mon temps comme je l'entends, être autonome et avoir du temps pour créer, ça c'est capital pour moi. Beaucoup plus important que de pouvoir dire en cocktail « Ah oui, je suis la directrice de la section je sais pas quoi de telle entreprise très très cotée », voyez. Nous sommes tous et toutes des êtres humains avec des caractéristiques communes évidemment, puisque nous faisons tous partie de l'espèce humaine, mais nous portons des nuances uniques en chacun de nous. Des nuances dans nos besoins, dans nos modes de fonctionnement, dans nos talents, nos goûts, nos valeurs, nos préférences. Et en fait, pour construire une vie qui nous ressemble vraiment et par conséquent qui nous satisfait et qui nous permet ensuite d'avoir l'énergie de changer au-delà de nous, en fait, d'apporter du changement autour de nous, la première étape serait donc de comprendre toutes ces nuances, de se connaître soi-même. J'écris dans un journal depuis que j'ai 12 ans. Alors, c'est pas le même carnet, hein, je dois en avoir une trentaine maintenant en archive. Ces dernières années, j'ai approfondi ma pratique du journal pour en faire un dialogue conscient avec moi-même, un rendez-vous intérieur, une manière de me connaître moi-même. Il existe plein d'autres manières de se connaître soi-même, mais pour moi, ça a été un point de départ extraordinaire que je veux partager avec vous dans ce podcast. Enfin, la sixième et dernière idée est la suivante. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Le passé est passé. Peu importe les opportunités qu'on a ratées, peu importe le temps qu'on a laissé passer. J'ai rencontré des écrivains de 80 ans hein, qui publiaient leur premier livre. Il est toujours temps d'apprendre, il est toujours temps d'évoluer, il est toujours temps de changer d'avis. Aucune décision n'est irrémédiable. Ni les décisions passées qui nous ont conduites ici aujourd'hui, ni les décisions qu'on peut prendre aujourd'hui pour tester quelque chose de nouveau. On pourra toujours changer d'avis dans le futur si en fait on se trompe dans la décision qu'on prend aujourd'hui. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était trop tard, que j'avais gâché ma vingtaine, que j'avais pas fait les bonnes études, que j'aurais pas dû arrêter d'écrire. J'aurais dû faire des études créatives, des études d'édition, j'aurais dû soumettre des romans aux éditeurs dès mes 20 ans, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela. Mais petit 1, ça ne sert à rien de penser comme ça, parce qu'on ne peut pas changer le passé. Et petit 2, cette histoire que je me raconte n'est pas la réalité. Si je veux faire un petit clin d'œil à la première de ces 6 idées que je viens de vous partager. Tout ça, c'est une histoire que je me raconte, que c'est foutu, que j'aurais pas dû. C'est pas la réalité, c'est une pensée. Je suis pas obligée de continuer à y croire. La personne que je suis aujourd'hui a vécu plein de choses que je n'aurais pas vécues si j'avais poursuivi un cursus littéraire et éditorial dès ma vingtaine. Mon parcours n'aurait été ni meilleur ni moins bien, hein, mais il aurait été différent, j'aurais été une personne différente. Ce que je suis aujourd'hui, les cartes que j'ai en main aujourd'hui, sont liées à toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Grâce à mon parcours de communication, je suis en mesure de communiquer moi-même autour de ma maison d'édition, parce que j'ai les compétences pour. Grâce à ma carrière dans le jeu vidéo, je comprends comment fonctionne le milieu de la culture et j'ai rencontré des gens qui m'aideront peut-être avec ma maison d'édition à l'avenir. Grâce à mon expérience de burn-out, j'ai appris des leçons incroyables sur l'expérience humaine, comme les 6 idées que je vous partage aujourd'hui, qui viennent nourrir mes contenus, comme ce podcast, mais qui viennent aussi nourrir la sensibilité que j'apporte à mon art. Tout ce que j'ai vécu jusque-là enrichit la personne que je suis aujourd'hui, et ça devient une carte qui participe à ma singularité aujourd'hui. Alors non, je n'aurais pas dû commencer avant. Le meilleur moment pour oser, pour me lancer, pour faire ce que j'ai profondément envie de faire aujourd'hui, c'est maintenant. Un rappel que je me donne à moi-même aujourd'hui, en ce jour où j'atteins les 36 ans d'âge. Le plus bel âge, comme chaque année. Si vous avez des questions, remarques, commentaires ou idées autour de ce sujet, vous pouvez les partager en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/BN173. Où vous trouverez aussi le script de cet épisode en PDF. Vous pouvez me contacter aussi sur floriteller.com/contact. Et pour des réflexions écrites autour de la créativité, la simplicité et le slow, j'envoie une lettre électronique un dimanche matin sur deux que vous pouvez retrouver en vous inscrivant sur floriteller.com/lettre. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !